France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Depuis plus de 30 ans, il tourne sa caméra bienveillante et précise sur les invisibles de notre société. Les enfants de l'immigration, de la double culture, les déracinés, les abîmés aussi. Il revient avec la série Nismet, qui est diffusée ce soir sur Arte. Philippe Faucon sera mon invité à partir de 13h. Mais d'abord, et comme chaque jour, on commence avec notre plateau de critiques. Aujourd'hui, on parle des albums de Bonnie Prince Billy et de Panda Bear. Bonjour à toutes et à tous, vous connaissez donc le programme et je vous présente mes camarades de jeu du jour. Charles Ardenne, critique musicale, directeur des contenus d'Olyrix, bonjour.
Bonjour.
Christophe Comte, critique et auteur, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les deux.
No, no, of course not. No, no, of course not, it is not all in vain. It is not all. Because the road is eternal game.
Bonnie Prince Billy qui se demande « Is my living in vain ?»« Ma vie est-elle vaine ?» Et pour son nouvel album, le chanteur de la folk underground indépendante a pris un nouveau virage. Lui qui produisait et enregistrait tout à la maison dans le Kentucky, quelques 30 disques quand même, cette fois c'est dans la cité de la country qu'il a posé sa guitare, Nashville, Tennessee. Bonnie Prince Billy, de son vrai nom Will Oldham, a travaillé en studio chez le grand producteur et musicien David Ferguson. Résultat de la country, oui, avec tout ce que ça suppose de retour aux racines de la vieille Amérique et de poussière, mais aussi de renouveau pour la musique de Bonnie Prince Billy. On commence avec un avis rapide et de l'autre, Charles Ardenne.
Mais justement, c'est tout l'enjeu. Un retour aux racines de l'Amérique, c'est un retour à une musique qui est une musique aussi de protestation, qui est une musique d'identité collective, de solidarité, qu'on retrouve dans tout cet album. C'est une musique très riche, c'est une musique avec des textes à la fois mélancoliques, mais aussi poétiques. C'est une richesse d'accords, de mélodies qui nous hante longtemps. C'est le vrai visage de l'Amérique qu'on voudrait entendre bien plus souvent.
Christophe Comte.
Je ne peux que approuver ce que vient de dire mon collègue. Oui, c'est un très, je trouve que c'est un très gros pari de Bonnie Prince Billy, même si c'est pas la première fois qu'il se déracine pour aller à Nashville, mais c'est surtout que c'est un disque extrêmement émouvant, alors qu'il a été fait dans un contexte qui est presque une sorte de jeu, c'est un disque de récréatif d'une certaine manière. Et il arrive à trouver une justesse de ton et quelque chose de très émotionnel dans l'interprétation, même quand il chante avec d'autres gens. Et je trouve ça assez remarquable parce que je ne voyais pas trop sur ce registre-là du partage, du collectif.
Alors, on va écouter tout de suite un extrait choisi par vous, Charles. Turn to Dust, Rolling On.
If you're asking my opinion, I'm just an ordinary man. Lord knows my intentions and he knows just where I stand. Right is right, wrong is wrong, no matter what side you're standing on. Can't we all just get along as life keeps rolling on? Rolling on.
Turn to Dust de Bonnie Prince Billy pour son nouvel album The Purple Bird. Charles Ardenne, là on est en plein dedans, on a l'impression que c'est vraiment de la country classique, la poussière dont je parlais tout à l'heure.
Absolument, on est en plein dedans et j'ai choisi le tout début de l'album, donc c'est par là qu'on commence. Tout de suite, Rolling On, on roule immédiatement dans le propos, dans le genre, dans le style. On roule avec Bonnie Prince Billy d'une certaine manière littéralement, comme on le rappelait, dans ce voyage aux racines qu'il fait lui aussi, hein, du Kentucky à Nashville. C'est comme un retour au lieu originel, à l'épicentre de cette musique country. On le disait tout à l'heure, il y a une dimension aussi légère, il y a une dimension
ce qui change onirique, un peu par rapport à d'habitude, c'est ça ?
Qui change un peu, mais qui vient aussi, d'une certaine manière, en même temps qu'une profondeur, qu'une nostalgie, que des choses extrêmement, extrêmement sensibles et lourdes. Parce que ce voyage qu'il fait à Nashville, c'est un retour, voilà, je le disais, dans l'épicentre de la musique américaine. Mais c'est aussi un voyage un peu personnel. D'habitude, j'aime pas parler de toutes ces dimensions un peu personnelles, un peu biographiques qui entourent un album ou qui entourent le travail d'un artiste. Mais quand c'est très signifiant, il faut le dire. Donc c'est aussi un voyage qu'il fait pour retrouver, en l'occurrence, c'est sa mère, pour s'occuper d'elle, avec l'enregistrement de cet album. Ça a forcément un impact sur la manière dont il chante, dont il enregistre, dont il pense à lui-même. Et dès cette première piste, voilà, Rolling On, il parle de dust, il parle de poussière. C'est à la fois pour dire, tout ce qu'on fait, au final, ne sera que poussière qui sera soufflée par le vent. Donc, aussi peut-être les mauvaises actions. Il y a aussi une référence biblique, hein, poussière, on redeviendra poussière, qui est liée à l'idée et au mythe de cette musique aussi américaine et de ses grands textes. Mais il y a cette volonté quand même de continuer à aller de l'avant, de continuer à créer, de continuer à produire de l'art, du beau, des ballades et des chansons.
Christophe Comte, vous avez été surpris.
Un peu, oui. Enfin, surpris, oui et non, parce que Will Oldham, c'est un personnage à facettes. Il a sa discographie le prouve. Il a fait une quantité de disques sous des noms très différents. Au début, Palace Brothers, Palace Music. Enfin, c'était une sorte de palace à rebondissement en plusieurs pièces. Et puis ensuite, il a pris cette identité de Bonnie Prince Billy, mais il a fait aussi des disques sous le nom de Will Oldham. Et c'est quelqu'un qui, d'une certaine manière, suit un chemin assez droit, assez finalement un chemin qui lui est presque propre, parce que quand il est apparu il y a une trentaine d'années, il était dans ce courant de l'alternative country d'une certaine manière, parce qu'à l'époque, le folk et la country, dans ce qu'était la musique américaine des années 90, c'était un peu mélangé, c'était pas... compartimenté d'une certaine manière. Donc, il y avait ce côté-là dans sa musique. Mais le côté plus, disons, restrictif de la country, avec tous ses codes, quelque chose qui, finalement, est très clarifié comme ça. En plus, quand on arrive dans le temple de la country, avec des musiciens, des chanteurs, des gens qui l'entourent, on pouvait penser qu'il allait être un peu mal à l'aise, qu'il allait se retrouver comme ça, cerné par ces gens qui sont un peu des autorités. Et en fait, non, on voit que c'est lui qui mène le débat, en fait. Il arrive avec ses chansons. Moi, les chansons, je les trouve country, mais comme beaucoup de chansons peuvent être country dans son répertoire, c'est pas non plus de la country telle qu'on l'entend aujourd'hui. Et c'est peut-être là que ça devient intéressant, parce que il y a forcément quelque chose de politique là-dedans, mais il le dit pas. Même dans les interviews, il est un peu flou. La country, depuis quelques années, depuis Trump, est redevenue finalement la musique de l'Amérique un peu, voire beaucoup réactionnaire. Il y a eu beaucoup de chanteurs country, comme on les imagine, à cliché avec le chapeau, enfin les voix sur un cheval de rodéo, qui viennent chanter au meeting de Trump. Donc cette musique est redevenue ce qu'elle avait été à une époque, et qui avait été beaucoup réformée par beaucoup de gens comme Willie Nelson et des gens comme ça. Mais il y a quand même tout un tas de chanteurs country en Amérique qu'on ne connaît absolument pas ailleurs, mais qui sont très populaires et qui ont un discours très réactionnaire. Donc forcément, faire un disque de country à ce moment-là, bon, même si il a été fait peut-être à l'époque où Trump n'était pas encore élu, mais il y a peut-être quelque chose de se dire que cette musique-là doit pas être laissée entre ces mains-là, quoi, et qu'il faut reprendre ce combat qui est celui de beaucoup de chanteurs country depuis des années, de dire attention à la carte postale, à ce côté très America's First, hein, d'une certaine manière, de la country, et de faire de revenir à l'origine, ce qu'était cette musique, un peu comme le folk, d'une certaine manière.
Ouais. Charles Arden, vous parliez de presque de protest song en l'occurrence.
Absolument, mais c'est vraiment tout à fait ça. C'est revenir à l'origine de ce qu'est cette musique qui a été pervertie, déformée. Quand elle est utilisée dans des meetings, quand elle est utilisée avec des casquettes rouges et des gros trucks, c'est vraiment une caricature de ce qu'est cette musique à l'origine, qui est liée à la protest song, qui est une musique des petits, des pauvres, des sans grade, des sans titre, qui essaye de se défendre face à une grosse machine d'oppression. Et bah justement, là, cet album revient aussi à cette origine, et quand il fait une chanson qui s'appelle qu'il nomme Guns Are For Cowards, les flingues c'est pour les lâches, ce qui d'ailleurs est aussi lié à une histoire très personnelle qui lui est arrivée, donc à chaque fois ça boucle la boucle. C'est un message forcément politique dans l'Amérique telle qu'elle est. En plus cette chanson est incroyable, c'est une espèce de chanson, donc protest song avec une musique un peu à la bavaroise. On se croirait un peu. Ouais, c'est dingue. C'est la fête de la bière à Nashville. Plus le piano.
C'est celle que je zappe, moi, dans le temps.
Ouais, c'est sûr que, une fois passé les fêtes
de la bière. Surtout qu'elle est juste derrière cette merveille, le chef d'œuvre de l'album pour moi, qui est New Water, qui est une chanson absolument merveilleuse, qui pour le coup est la moins country peut-être de, mais l'autre après, ouais, le message est peut-être intéressant, mais par contre, musicalement, c'est vraiment unique.
Hein. Ah bah, il s'amuse aussi. Hein. Il y a une ironie, il y a un sarcasme.
C'est ce qui est marquant visiblement dans cet album, c'est que là il y a une forme de légèreté qui n'est pas totale, bien sûr. On reste sur Will Oldham, mais quand même.
Oui, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a un côté récréatif parce qu'à la base ça ne devait pas être un album. Et Will Oldham, malgré son expérience, malgré sa grande son énorme discographie, son œuvre, c'est quand même quelqu'un qui, lorsqu'il fait un album, se sent un peu en danger, a quelque chose de très de chez lui qui sait pas s'il va y arriver. Et là, il dit bon, ça s'est fait c'est passé comme une lettre à la poste, parce que ça devait pas être un album. Ça devait être juste des sessions d'écriture avec d'autres gens, et puis finalement ça devient un disque, mais c'est un disque qui n'a pas été... Il était en train de faire un autre album, il s'est interrompu pour faire celui-là, donc c'est une sorte de side project, mais où finalement tout ce qui fait son caractère très fort perd. C'est pas un album comme ça juste pour jouer dans des barbecues, c'est quand même très intense, hein. Moi j'ai été plusieurs fois, je me suis dit wow, les morceaux sont extrêmement émouvants, quoi. Il y a un truc qui est très très fort. Et je voulais dire aussi, parce que j'ai le souvenir de ce film merveilleux de Kelly Richard, Old Joy, dans lequel il était comédien, ce qui m'avait beaucoup étonné. Mais il joue
dans Wendy and Lucy aussi.
Ouais.
Dans
et Old Joy, c'était un peu comme la country, quoi. C'est une sorte de western un peu. Et c'est toutes ces figures de l'Amérique qui peuvent être détournées au profit comme ça. Finalement, il y a des gens aujourd'hui, des résistants qu'on entend très peu, hein, finalement, mais qui font d'une certaine manière ce qu'ils peuvent pour rénover, pour réinventer ces genres qui sont parfois récupérés par une grande partie des réactionnaires aux États-Unis. Et c'est un peu la même démarche sur ce disque, je trouve.
The Purple Bird de Bonnie Prince Billy, qui sera en concert en France le 17 mai à Nantes, le 18 mai à Paris à la Cigale, et ensuite en Europe. Les dates sont évidemment sur la page des Midi de Culture. Charles Arden, c'est l'heure de votre coup de cœur.
Mon coup de cœur, c'est La Favorite de Yoa, titre très bien nommé, très bien trouvé, qui me plaît beaucoup et qui nous explique, qui nous annonce déjà la couleur. Je vais être la favorite. Elle accomplit, en plus, elle réussit ce qu'elle essaye de faire. Yoa, c'est son nom d'artiste. Bon, parmi tous ces noms d'artistes qu'on connaît, qu'on confond avec quelques lettres, quelques diminutifs, mais là, c'est le diminutif de son prénom, Johanna Bolsley, qui est une artiste franco-suisse d'origine jurassienne camerounaise et qui puise dans ses racines, dans ses inspirations, de quoi faire un langage pop et même hyper pop, dont on va écouter un extrait de la dernière piste, justement, La Favorite.
Je n'ai pas écrit la suite comme si des dieux j'étais la favorite. Oh, oh, j'aimerais prendre la fuite. Comme une
Alors, ce qui fait que c'est mon coup de cœur et ce qui m'intéresse beaucoup avec cet artiste et avec ce projet, c'est que sur le papier, il y a tout pour me déplaire, de cette manière, ou ne pas m'intéresser, parce que on a donc une chanteuse qui découvre une vocation musicale pendant le confinement, on en a eu beaucoup, qui publie voilà des pistes sur SoundCloud, sur des réseaux sociaux, etc., pour là où plein d'autres de ses congénères et collègues publient pour percer, qui a beaucoup d'air dans la voix, donc ça c'est un peu les clichés vocaux, qui fait donc de la pop, hyper pop, lo-fi avec donc une utilisation de l'électronique, et dans 80, j'ai pas de statistiques, mais 19% des cas, bon, bah voilà, c'est un peu toujours pareil, c'est les mêmes clichés qui reviennent, c'est, on peut le confondre un morceau à l'autre dans une playlist. Mais là, en fait, elle rappelle pourquoi tous ces éléments-là, en fait, qui sont devenus des clichés, sont signifiants à l'origine. Un cliché, par définition, c'est quelque chose qui voulait dire quelque chose, mais à force de l'utiliser, de réutiliser, ça veut plus rien dire. Sauf que elle, quand elle met du souffle dans la voix, c'est pas un effet, c'est pas cosmétique, c'est vraiment, on sent qu'il y a un souffle qui vient profondément de ce qu'elle a envie de dire, de ce qu'elle a à dire. L'électronique, c'est pas juste un petit côté cosmétique qu'elle rajoute, c'est vraiment très pensé sur des textes, sur des mots précis, sur des passages précis, pour montrer comment un coup de cœur disparaît, un cœur se brise, une passion se désaxe, se décale. Elle a des très belles déclarations d'amour, pas seulement de couple, mais aussi d'amitié. Un coup de cœur et des cœurs brisés par des amitiés perdues, pas simplement sous la pluie avec un garçon et une fille. Elle a des pistes qui sont très très fortes. Là aussi, c'est des choses qu'on a déjà entendues, qu'on a déjà vues, mais où elle prend plusieurs points de vue dans une même piste. Et elle va pouvoir commencer une piste en parlant, en prenant le point de vue, en disant je, comme en parlant d'un homme, voilà, qui accumule les conquêtes. Sauf que en cours de piste, ça change de point de vue, et c'est elle qui parle. Et on voit qu'en fait, elle a été victime de cet homme qui dit que les femmes, leur cœur, il les vole. Et en fait, on comprend que quand elle change un mot, c'est pas qu'il les vole, c'est qu'il les viole. Voilà, il y a toute cette puissance, il y a tout cet univers. C'est un roman d'apprentissage dans lequel elle replonge, dans lequel on a l'impression qu'elle tourne en rond, mais à la fin, elle a quand même retenu quelque chose et ça transparaît dans sa musique. Et c'est pour ça que c'est mon coup de cœur, la favorite de Yoa.
Et donc, elle a remporté la victoire de la musique dans la catégorie révélation scène. Je suppose que donc sur scène, ça doit être super aussi.
Absolument, j'ai pas eu le temps de le dire, mais en effet, dans son parcours, elle est comédienne, danseuse, dramaturge, et tout ça, elle le met aussi au service de la scénographie sur scène, de ses clips. Donc, c'est une artiste vraiment plurielle.
La favorite de Yoa. Oh, quelle est joyeuse cette charmante ritournelle de l'américain Panda Bear. Pourtant, à l'image de ce nouvel album, le titre Fairy Lady, que l'on vient d'entendre, est un bonbon au cœur un peu acide. Panda Bear, alias Noah Lennox, on l'a connu batteur, cofondateur du groupe Animal Collective, et pour cet album solo. Il s'entoure d'ailleurs à nouveau des membres du groupe, mais c'est lui qui joue de tous les instruments. Un album moins synthétique, on va dire, que les précédents, plus solaire peut-être aussi, où on retrouve son amour, on l'a entendu là, des chœurs pop. Son titre, Sinister Grift, comprenez la sinistre arnaque. On commence avec vos avis, Christophe Comte.
C'est pas une arnaque du tout, et c'est pas sinistre. C'est un album parfait pour le printemps qui arrive. C'est un disque qui a l'air comme ça, effectivement, une sorte de revisitation des Beach Boys, hein, on va dire. De toute façon, dans l'œuvre de Panda Bear et dans celle de Animal Collective, il y a toujours ce côté, ces voix comme ça, un peu célestes. C'est un disque, finalement, effectivement, un faux disque solo. Et c'est encore un disque de déracinement, parce que bon, ça fait quelques années déjà que Panda Bear, Noah Lennox, habite au Portugal. Il a quitté les États-Unis et Baltimore. Je sais pas si c'est pour des raisons politiques, mais en tout cas, il est installé maintenant au Portugal. Il a fondé une famille, il a des enfants. On entend sa fille, d'ailleurs, à un moment, qui récite un texte en portugais. Et ça apporte peut-être quelque chose à ce... Parce que moi, je l'avais interviewé pour Animal Collectif, parce qu'ils ont fait deux albums coup sur coup en 2022 et 2023. Et la distance... Alors, il y avait eu effectivement le Covid, il y avait ce côté on fait des disques à distance. Mais le fait même d'être comme ça, très loin de ses camarades, avait cultivé chez lui quelque chose qui est... Bon, de toute façon, depuis le départ, depuis son premier album en 2007, je crois, l'idée de refaire ce truc de l'homme orchestre. Mmh. L'homme orchestre version 2.0. Je sais pas si la référence peut parler aux auditeurs, mais il y avait quelqu'un qui faisait ça dans les années 70, qui était Todd Rundgren, qui était vraiment l'homme orchestre, qui faisait des disques incroyables et qui d'ailleurs plagiait aussi. Il a fait un album avec son groupe Utopia où il plagiait les Beatles, et il avait fait un album assez dingue de reproduction de chansons, notamment des Beach Boys, à la note près. Bon, tout ça pour dire que c'est un genre qui existe dans la pop américaine. C'est des gens qui font une espèce de truc un peu, voilà, une sorte, presque un exercice de style. J'étais un peu long, je crois.
C'est pas grave, Charladen, on va être plus rapide pour le premier avis.
Plus rapide, mais c'est la chill wave, hein, c'est la chill wave de Panda Bear depuis Person Pitch en 2007, qui, comme son nom l'indique, une vague de chill, de détente, de tranquillité. C'est en effet un artiste donc de Baltimore qui nous fait de la musique de la côte ouest californienne à la Beach Boys, mais comme avec les grands artistes, à chaque fois, dès qu'on creuse un peu, dès qu'on prête une oreille encore un peu plus attentive, on voit tout le travail de production qui a été fait et qui est impressionnant.
On va écouter un titre que vous avez choisi, Christophe Comte, Hans Smith. Smith de Panda Bear, Christophe Comte, pourquoi ce titre, qu'est-ce qui nous a...
Bon, c'est un des singles de cet album. Moi, ce qui m'a amusé avec ce titre, c'est presque une parodie, mais un hommage à un morceau des Stranglers qui s'appelait Always the Sun. Et Always the Sun, je trouve que ça caractérise bien cet album de Panda Bear, qui est effectivement, alors comme je le disais tout à l'heure, un album avec une sorte de faux profil comme ça, très ensoleillé, presque, oui, chill wave, avec, mais qui est pas un disque forcément de voilà, qui respire cette espèce de joie de vivre un peu ce qu'avaient les Beach Boys. Et comme les Beach Boys d'ailleurs, il y a un cœur un peu noir, mais en même temps qui est pas non plus, c'est pas un disque tragique du tout. C'est juste, je pense, pareil, enfin, c'est un peu comme Bonnie Prince Billy. Je pense que quand on est un musicien américain aujourd'hui, on peut pas être indifférent à ce qui est devenu son pays. Et même quand on est à distance, il y a quelque chose. Alors, je sais pas si la sinistre escroquerie, ça parle.
C'est ça
de, je sais pas. C'est pas évident. Mais en tout cas, ces musiciens de Baltimore, de Animal Collectif, qui ont été une sorte de à un moment, à la tête d'un revival psychédélique qui a pas mal été influent dans le monde, mais beaucoup aux États-Unis. C'est beaucoup des groupes aujourd'hui. On n'en a pas parlé à propos de Bonnie Prince Billy aussi, mais il y a toute la marchandisation de la musique a fait que tous ces groupes sont redevenus un peu underground et que leurs outils sont pas si évidents. À l'époque, il y a un album de Animal Collectif qui a vendu énormément. Mmh. Et aujourd'hui, c'est des groupes qui sont redevenus très indés parce que bah, on gagne plus vraiment sa vie en sortant des disques. Ils font assez peu de concerts parce qu'ils sont disséminés partout. Et finalement, je pense que ce disque-là, il y a aussi cette inquiétude-là, ce truc de dire on fait de la musique aujourd'hui, en 2025. Mais quel est notre métier réellement? Qu'est-ce qu'on fait? On est redevenu finalement de petits artisans. Et peut-être que cette escroquerie est aussi s'adresse aussi un peu à eux-mêmes. Est-ce qu'on est des escrocs? Est-ce que finalement on n'a pas réussi? Parce que alors, ce qui est intéressant, ce que dit Noah Lennox, et j'en terminerai avec ça, c'est qu'il dit qu'il a fait ce disque en se souvenant des musiques qu'il écoutait quand il passait ses examens à l'école et qui étaient ce qu'on appelle aux États-Unis la musique pour adultes, c'est-à-dire des musiques qui passaient sur la FM, des gens comme Jim Croce, des choses vraiment très, très commerciales et populaires. Et donc, finalement, il y a une espèce de miroir un peu flou à essayer de faire ce genre de musique, qui vendait à l'époque des millions, tout en étant un artiste, finalement, qui est assez underground, ou en tout cas... Et je pense qu'il y a, cette histoire d'escroquerie, il y a un peu ça, quoi.
Charles Arden.
Oui, c'est vrai que ce titre nous plonge dans des abîmes de perplexité. Et en même temps, je pense qu'il nous invite aussi, c'est fait pour, à juste écouter la musique et pas trop faire attention à ce titre, plutôt faire attention aux lyrics. Mais en effet, c'est tous les enjeux que ça soulève. Je vais rester bien sûr sur Pandamer, mais tout l'enjeu de comment on vit de la musique aujourd'hui, de c'est quoi cette escroquerie sinistre qui tourne autour, elle concerne forcément tout le monde de la musique, donc tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui, les deux sujets précédents. Yoa d'ailleurs, si elle est artiste révélation scène, c'est tant mieux pour elle, parce que la scène, c'est le moyen de gagner sa vie aujourd'hui. D'ailleurs, au passage, elle se moque aussi de toute cette industrie musicale, parce que si vous achetez son disque, vous pouvez acheter aussi le pack avec t-shirt et le pack aussi avec culotte, donc à faire. Mais en même temps, elle gagne de l'argent aussi, donc c'est une manière de faire de l'argent tout en se moquant. Et pour rester sur Pandaber, oui, cette escroquerie sinistre, c'est l'inverse de ce qu'on entend dans l'album. Et donc, c'est aussi sans doute un message adressé à nous de dire arrêtez de regarder mes références aux Beach Boys ou de quelle période je vient, ou c'est un remake de ceci ou un remake de cela. Écoutez le son pour ce qu'il est, rentrez dans cette vague, rentrez dans cette sonorité. Même si dans certaines pistes, il y a quand même des passages où il est un peu plus incisif. Je pense à Venom's Inn, qui, comme son nom l'indique, est le poison, et c'est un poison qu'on entend littéralement, en fait, se répandre dans la musique, ralentir le flow et mettre, de fait, ce ver dans le fruit.
Et donc cette sonorité, juste en quelques mots, qu'est-ce qu'on entend dans ce disque en termes de sonorité?
C'est sûr que on entend beaucoup les Beach Boys, on entend beaucoup Brian Wilson, on entend beaucoup
aussi, bien sûr.
Mais comme je disais, faut aller dans le détail pour écouter le travail très spécifique, et un grand travail aussi sur les voix. Voilà, il y a un grand travail sur les voix, sur les échos, sur les réponses, sur des petits chœurs en fait qui se forment.
Sinister Grief de Pandaber, qui sort d'ailleurs demain. Merci à tous les deux, Christophe Comte, Charles Arden, d'être venus dans les Midis de Culture. Et toutes les références de ces deux albums, vous les retrouvez évidemment sur la page des Midis de Culture.